Au bord du lit, des aventures sonores créées sur mesure pour te faire voyager en restant sous ta couette. Tous les deuxièmes dimanches du mois, à 11h, prends le temps d'émerger au rythme d'histoires palpitantes et envoûtantes sur Prune 92 FM et en podcast sur prune.net.
L'ère de l'hiver commence de plus en plus à se faire sentir et nous nous retrouvons au chaud, au bord du lit. Aujourd'hui, c'est le troisième et dernier épisode de La Malédiction de l'Aubrion, la merveilleuse aventure coécrite avec Raph qui est à mes côtés. Salut Raph.
Et bonjour.
Pour clore ce récit dont le fil narratif a été inspiré par un tirage de cartes de tarot, nous avons tiré la carte du chariot. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur sa signification ?
Je peux. Écoute Solène, le chariot, c'est la septième arcane majeure du tarot. C'est un symbole à la fois de triomphe, de contrôle et de mouvement. Il incarne la volonté indomptable qui guide l'individu vers la victoire, malgré les obstacles. Donc nous allons voir ensemble un message clair, mais voilé. Le succès appartient à celui qui gouverne ses passions, guide son destin avec fermeté et détermination.
Ok, et bien merci beaucoup pour ce petit pitch et teaser de ce qui va suivre. J'espère que vous êtes bien installés et bonne écoute.
Vous croyez peut-être connaître l'histoire. Vous pensez peut-être que les légendes sont des contes pour effrayer les plus petits. Mais vous vous trompez. Vous ignorez jusqu'où l'obscurité peut s'introduire quand l'insouciance règne. Alors, ouvrez grand vos esgourdes. Les paroles qui vont suivre sont celles de notre vérité. Une vérité que personne ne souhaiterait entendre, mais que je me dois de vous partager aujourd'hui. La forêt des grands sapins. Pour certains, ce n'est que du bois en nectar, mais pour nous, c'est tout autre. Chaque racine, chaque branche, chaque ombre qui danse sous ses cimes nous habite. Nous prenons soin d'elle, et en retour, elle en fait de même pour nous. Elle et nous sommes un tout. Cette harmonie s'est maintenue au fil des saisons, défiant le passage du temps, jusqu'au jour où un mal s'est éveillé.
À l'origine, ce n'était que des signes plutôt silencieux. Des aiguilles qui tombaient trop tôt, des troncs qui semblaient ployés sous le poids des âges. Mais par la suite, les lamentations frappées à la porte, des sortes de longues plaintes asphyxiées portées par un vent nocturne, suffoquaient nuit et jour. Oui, c'était comme si elle pleurait, notre Sylve. Et vous pouvez me croire sur parole. Quand une forêt verse des larmes, ce n'est jamais bon présage.
Cela a commencé au sud, mais très vite, le mal s'est généralisé. Jour après jour, végétal après végétal. Le cœur même de la forêt semblait se ternir. Notre peuple, désespéré, cherchait des réponses. En vain, nous avons prié, imploré. Sans succès. La forêt devenait de plus en plus silencieuse. Alors, les plus téméraires ont décidé de prendre le taureau par les cornes, survivre ou périr. Dans les ténèbres d'une nuit sans lune, une troupe de druides herboristes s'est engagée dans les profondeurs de la forêt, suivant les gémissements au plus près du possible. Ils marchèrent longtemps sous une voûte de reflets oppressants. Soudain, au détour d'un bosquet aux arbres sans vie, ils se figèrent d'effroi face à la plus terrifiante des révélations. Une vérité si effroyable qu'elle menaçait de bouleverser les fondements mêmes de leur monde sylvestre. Là, agrippée le long d'un sapin, se trouvait une abomination. Une masse informe d'ombres mouvantes, suintantes, à la consistance irréelle. C'était un oubrion, une créature née pour détruire. De son corps jaillissaient des bras interminables qui enserraient le tronc avec une force terrifiante, creusant profondément dans l'écorce, aspirant la vie de l'arbre, notre oxygène, notre ami de longue date. Et ce son, un gargouillis d'aspiration sourd et incessant, comme si elle buvait l'âme de la forêt tout entière.
Entendez bien ceci. L'aubrion n'est pas une créature comme celle que vous pouvez rencontrer. Ce sont des mangeurs de vie, des entités anciennes et solitaires, errant à la recherche de leur prochaine proie. Ils dévorent l'essence même de l'univers. Chaque succion les transforme en un pouvoir obscur, toujours plus redoutable. Voici ce que vous devez savoir. Un aubrion ne peut être tué. Il ne peut qu'être scellé.
Nos camarades traquèrent la créature pendant 6 jours et 6 nuits, sans jamais céder à l'appel du sommeil. Chaque nuit, l'aubrion aspirait l'essence de notre vie, puis disparaissait dans la pénombre. Chaque matin, il retrouvait sa trace, marquée par des racines toujours plus asséchées. Le combat, lorsqu'ils l'affrontèrent enfin, fut d'une violence sans pareille. Ses bras immenses fouettaient l'air, arrachant des branches, brisant des corps, tandis que son souffle empoisonné drainait la vie dans ses alentours. Beaucoup tombèrent, leurs corps ensevelis par les racines désormais souillées.
À l'aube du 7e jour, alors que tout espoir semblait perdu, ils parvinrent à la capturer, l'enchaînant avec des chaînes forgées dans le fer le plus pur. Diminués mais victorieux, ils ramenèrent l'aubrion au village, où la communauté des anciens décida de son sort et plus vastement de celui de notre monde. Au travers de chants elfiques anciens, colorés de magie oubliée, ils scellèrent l'esprit de l'aubrion. Son organisme fut déchiré en 6 fragments. Représentant les 6 émotions que ne peut ressentir cette créature. La joie, la surprise, la colère, la peur, le dégoût et la tristesse. Chacun, enfermé dans une coupe façonnée des métaux les plus précieux, est devenu ainsi une prison éternelle. Ces coupes, imprégnées de son pouvoir maudit, furent dispersés aux confins du royaume, dissimulés dans des lieux oubliés de tous. On raconte que si les 6 artefacts, fragments d'ombre et de chaos, venaient à s'unir, l'aubrion renaîtrait de ses cendres, plus puissant que jamais. Les âges s'écoulèrent, et avec eux, les légendes sombraient dans l'oubli. Les hommes détournèrent leur mémoire de ces récits jusqu'au jour où le roi Hector, guidé par le hasard ou par une sombre fatalité, mit la main sur l'un de ces artefacts.
Hector était un homme noble, bon et juste, mais la coupe le changea. D'abord, ce furent des murmures, puis ces murmures devinrent une obsession. La coupe lui parlait, lui promettant pouvoir et gloire. Hector fit déplacer ses sujets vers les marécages oubliés, son pouvoir de persuasion prenant toujours plus d'ampleur auprès de ses semblables. Là-bas, il trouva une seconde coupe, puis une autre, encore une autre. Chaque fragment qu'il découvrait rendait Hector plus fort, mais ce pouvoir ne venait bien évidemment pas de lui. C'était l'aubrion qui utilisait Hector comme un pantin, le manipulant pour rassembler les morceaux de son âme.
Cependant, le mal ne se contenta pas d'Hector. Il avait grand faim. L'influence des coupes s'étendit, enveloppant peu à peu les villageois. Ils obéissaient sans relâche à leur souverain déchu, sans question, tandis que leur monde autour d'eux s'effondrait. Les eaux devinrent imbuvables, les récoltes moururent et les animaux s'évanouirent dans les brumes du néant.
Hector abandonna son propre peuple pour poursuivre la dernière quête, sa dernière danse macabre. Mais il ignorait que certains échappaient encore à son pouvoir. Les herboristes, druides sylvestres, descendants des anciens qui avaient scellé l'Aubryon, étaient protégés de son emprise maléfique. Nous étions protégés de son emprise maléfique. Nous seuls comprenions la véritable nature du fléau qui s'abattait sur notre monde. Les anciens tentèrent de réparer les dégâts, de purifier les sols, sauver les villageois. En vain, la malédiction était, elle, trop pour incinérer. Alors, face à l'inévitable, ils firent un choix cornélien. Ils empoisonnèrent le roi et empêchèrent ainsi l'Aubryon de revenir à la vie.
La suite, vous la devinez. Aujourd'hui, les lamentations s'élèvent à nouveau. La forêt frissonne et l'Aubryon, j'en ai bien peur, est sur le point de s'éveiller.
Si l'unité des six est retrouvée, le monde, à jamais dans l'obscurité, tombera.
Vera et Alda, leur esprit embrumé par le pouvoir maléfique des coupes, se sont enfuis par un passage secret de la grotte, emportant avec eux 5 des 6 artefacts maudits et se retrouvent désormais au milieu du village, là où tout a commencé. Sur la grande place pavée de Saint-Roustan, Vera se dresse, telle une prophétesse, son frère à son chevet. Sa voix, autrefois douce comme le miel des ruches sylvestres, résonne maintenant telle la force d'un gourou messianique, porteur de vérité absolue. Les villageois, ensorcelés par ses paroles, se pressent autour d'elle.
Écoutez-moi bien, habitants de Saint-Roustan, la 6e coupe est notre salut! Retournez chaque pierre, fouillez chaque enclos, n'épargnez aucune cachette. Il est temps de rendre gloire à notre roi Hector pour faire prospérer notre peuple.
Les habitants, enivrés par l'éloquence hypnotique de leur nouvelle guide spirituelle, se lancent dans cette quête qui promet de changer leur destin à tout jamais. Accompagné de Bosco, Félix, après avoir fait les 1000 pas devant la grotte de Nemours, se décide et prend la direction de son logis de toujours, la maison de Mamie Ferne. Elle a toujours été de bons conseils. Dans la douce chaleur de sa chaumière, Ferne, la grand-mère de Félix, s'affaire avec une détermination des plus sages. Elle sait. Ses mains, ridées comme l'écorce des vieux sylvestres mais douces comme la soie, danse au-dessus de son plus fidèle compagnon, un chaudron qui a vu naître d'innombrables recettes qui en ont réconforté plus d'un. En parlant de réconfort, elle et Bosco dévoilent à Félix l'origine des herboristes et leur combat épique face à la malédiction de l'Aubryon. Le feu du foyer crépite chaleureusement. Des bouquets de roses enrobent les poutres, leur parfum délicat enivrant l'atmosphère joyeuse. C'est dans ce cocon de tendresse que Ferne prépare son élixir pour mettre un terme à ce danger grandissant. Elle sait que le temps presse. que la mainmise de l'Aubrian sur Vera et son entourage se renforce à chaque instant. Avec le doigté d'une fée, Fern ajoute les ingrédients un à un.
Un peu d'écorce de chêne, 15 grammes de pistil de lys, 10 centilitres de rosée et un peu de fleurs d'oranger.
La mixture frémit doucement. Ne manque que le plus crucial des ingrédients, celui qui transformera ce poison naturel en antidote.
Félix, c'est une larve d'un être cher perdu dans le sacrifice qu'il me faut. Ta grand-mère enfile ses vieux sabots, direction la grotte de Nemours, retrouve Elena.
Enveloppant la mixture dans un linge épais, elle la place dans un panier d'osier. Armée de sa canne de marche et d'une lanterne, elle quitte son logis. Félix sent le poids de sa responsabilité peser sur ses jeunes épaules quand une étincelle d'inspiration jaillit de son esprit.
Bosco, écoute-moi. Tout a commencé au tombeau du roi Hector. Vera et Alda y sont encore, j'en suis sûr. On doit les aider.
T'as raison, petit. Le village, c'est là qu'on trouvera des réponses. Hâtons-nous.
Sans plus attendre, les deux compagnons s'élancent vers Saint-Roustan. Clore un chapitre pour en ouvrir un nouveau, qui sera peut-être plus périlleux encore.
Le village de Saint-Roustan, autrefois paisible havre de paix, est désormais plongé dans le chaos. Sous l'emprise de l'Aubrian, Vera orchestre une frénésie sans pareille. Les villageois s'enflamment à brûler leurs propres bâtisses, leurs yeux brillants d'une étincelle fanatique. Les étables s'effondrent, les bêtes s'affolent. Félix et Bosco, dernier rempart face à la barbarie, tentent non sans mal de gagner du temps. Phénix approche Alda, dont l'âme oscille entre ombre et lumière, quand ce dernier voit son ami de toujours pointer le bout de son nez. Il tend une main vers son copain.
Alda, c'est moi, c'est Phénix.
Canguidouille, de quoi tu me parles, toi?
Je t'en prie, Alda, souviens-toi. Nos après-midi passés à jouer à cache-cache sur la plage du marché, nos courses effrénées à dos de cerf dans la forêt, nos soirées à se remplir la panse au ragoût de mammifères, comme des ogres. C'est moi, c'est Phénix, ton frère de cœur, ton frère de toujours.
Une étincelle de lucidité voit le jour. Alda est de retour. Soudain, au milieu des flammes, une forme apparaît à l'orée du village. Comme un miracle, il surgit. Le gardien de la forêt des grands sapins, le plus majestueux des cerfs, Sylvain le Sage. Il n'est pas seul. Mammiferne, chevaleresse de toujours malgré son âge, guide son compagnon cervesque, le panier d'osier à la main. Ni une, ni deux, Phénix et Bosco, dans un élan désespéré, se jette sur Vera pour la maîtriser. Alda, lui, saisit le panier dans lequel réside la clé de tous ses mœurs, l'élixir des grands sapins. Il attrape sa sœur, qui se débat d'une force surnaturelle.
Lâchez-moi, misérables humains, lâchez-moi!
Alda abat alors sa dernière carte. Malin comme un renard, il hoche la tête en direction de Phénix et Bosco, prétend les dégager pour défendre sa sœur. Il pousse alors Bosco et Phénix, ces derniers tombent à la renverse, présentent le breuvage à Vera en prétendant que celui-ci lui permettra de trouver le dernier des artefacts.
Vera, bois ! À nous les pleins pouvoirs !
Oh. Ah, mais... ah, mais c'est quoi ton truc là ? Ah, je me sens pas bien ! Ah.
Une ombre épouvantable, stigmate de l'eau brillant, s'échappe du corps de Vera dans un rugissement de terreur.
Sylvain, dans un geste d'une élégance rare, se prosterne. Fern vient alors récupérer le linceul dans lequel repose le corps de Léna. Le grand cerf recueille les coupes avant de disparaître dans les profondeurs de la forêt. Sa silhouette entraînant avec elle le fardeau maudit vers des contrées dont les habitants ne veulent savoir la destination. Vera et Alda, libérés mais abattus par le chagrin, guident le village dans un hommage poignant à Léna. Son corps est déposé devant la boulangerie, son péché mignon, où elle dévorait les pains au chocolat qui ont bercé son enfance.
Le lendemain, le corps de Léna est rendu à la terre. Au cœur même des grands sapins, afin que son âme pure transforme les racines décomposées en un labyrinthe de vie. Chaque année, le village célèbre la fête de la Renaissance herboriste. Les chants illuminent la ville, les habitants ripaillent à plein ventre, contant l'histoire de quatre joyeux lurons. Au diable la légende du roi Hector !
Longue vie à Léna la créatrice !
La légende de Léna, rappelant alors à tous que même dans les moments les plus sombres, l'amitié et le courage peuvent triompher de l'obscurité. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et
mais oui, merci.
Et surtout, un grand merci à toi, Raph, pour ton imagination, tes talents d'écrivain et de comédien derrière ce micro.
Il y a un homme.
Il y a un homme, exactement.
Et Solène, j'en profite pour te dire merci. Merci à toi pour ce temps, c'était vraiment très chouette. Donc, au plaisir de repartager une expérience ou un projet de la sorte.
C'était avec grand plaisir, merci à toi, Raph. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain, l'année prochaine, pour de nouvelles fictions radiophoniques. En attendant, vous pouvez retrouver tous les épisodes de La Malédiction de l'Aubrian sur le site de Prune, prune.net. Bon dimanche à vous et à bientôt sur Prune 92 FM.